RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
À 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le directeur de la rédaction de Marianne. Bonsoir, Joseph Massescaron.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir.
Avec le conseiller en communication, Philippe Bailly. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Et avec notre éditorialiste économique maison. Bonsoir, Christian Menanteau.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Premier sujet, RTL vous le révélait à 18h. La mairie de Paris a commandé un sondage dont elle n'a pas vraiment fait la publicité sur le travail le dimanche. Eh bien, 70% des Parisiens sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Et même, ils sont prêts à aller travailler eux-mêmes le dimanche. 70% d'entre eux, 70% des sondés. Alors, on sait qu'Anne Hidalgo a entamé un bras de fer avec Emmanuel Macron sur le sujet. Elle soumet la question au vote la semaine prochaine. Alors, ce soir, vous votez Hidalgo ou Macron sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret de LCI. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, c'est toujours aussi partagé. Tiens bon, Anne, lance pseudo. Aucun salarié de ce pays ne travaille le dimanche par volontariat, mais parce que le patron le veut, assure le socialiste Gérard Filoche. Faux, répond Clément. J'en ai fait des dimanches dans les rayons pour Noël et j'étais bien content d'être mieux payé. Je dois pas être le seul. Oui, tu peux travailler le dimanche pour avoir un salaire correct. Tu as aussi le droit de vendre un rein pour nourrir tes enfants, hein, grince Nimp. Combien de temps encore allons-nous continuer de perdre emploi et millions d'euros, se désole l'UMP Pierre Lelouch. Anne Hidalgo continue son combat contre la compétitivité économique de Paris, regrette Melchior. Mais Angelo rétorque, les Français n'ont plus de thunes, à quoi ça sert d'ouvrir le dimanche? Ils consommeront pas plus, ne rêvez pas. Mais il y a les touristes, rétorque Tequila, qui préfèrent du coup dépenser à Londres, où on doit sabler le champagne en hommage au maire de Paris. Pour qui elle se prend, Hidalgo? C'est terrible, ce tempérament bouillant. Moi, je préfère Macron, le réaliste, tranche Niki. Puis je rappelle qu'elle est retraitée de l'inspection du travail, ça doit être pour ça. Le travail le dimanche, c'est typiquement un truc que tu peux essayer et éventuellement revenir en arrière. Mais non, les grandes idéologies s'expriment encore. Soupir, ricole pour finir.
Christian Menanteau.
Oui.
Alors, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron,
c'est le bon Dieu. Mais le problème, il n'est pas technique. On sait qu'on ouvre 5 dimanches actuellement à Paris. Macron en propose 12. Franchement, ce n'est pas la révolution copernicienne.
Bah, pour Anne Hidalgo aussi, manifestement.
Oui, mais il y en aura 7 à la disposition de la mairie et 5 à la disposition des commerçants. Non, en réalité, je crois que c'est plutôt un truc qui la turlupine, c'est qu'il y a Macron et Fabius qui veulent des zones touristiques internationales et ils veulent décider ça par décret. Et là, Madame Hidalgo, elle n'a pas la main. Et ça, ça ne lui plaît pas parce qu'elle a envie, dans sa ville, de choisir les endroits éventuellement où on pourrait travailler le dimanche. Donc ça, c'est la première chose. C'est intolérable. Tous les élus de France veulent que leur précaré reste leur précaré. On ne va pas s'occuper de cette affaire-là. Et la deuxième chose, tout à l'heure, Marc-Olivier, vous disiez qu'on va voter très vite. Je pense qu'on ne va pas voter. Ça va être reporté, le vote de cette affaire-là. Et on votera probablement en février, fin février. Pourquoi? Parce que le travail du dimanche, ça va être un marqueur pour Madame Hidalgo. Ça sera très près du congrès du Parti Socialiste. Et à ce moment-là, elle dira, mais voyez, moi, je fais partie de ceux qui défendent le travail, le non-travail du dimanche, etc., etc. Et pas comme Valls, ce vieux social-libéral là, qui veut exploiter le populaire. Voilà.
Philippe Bailly, exploiter le populaire, hein, comme vous avez dit, ce vieux social-libéral, c'est ça?
En tout cas, je rejoins Christian Menanteau sur le fait qu'elle cherche un marqueur de gauche et par la même occasion, elle prend le problème à brousse-poil. L'idée, ça serait quand même plutôt que la loi fixe un cap pour général, et qu'après, ville après ville, on regarde des réalités locales. Là, elle préempte le sujet. C'est le premier sujet. Deuxième chose, dans la ville, sans doute, sur lequel il n'y a aucun doute sur l'efficacité du travail le dimanche. Pourquoi? Parce qu'à Paris, il y a les touristes. Effectivement, quand on est dans une petite bourgade de province, on peut se demander si réellement on consommera plus quand même si les magasins sont ouverts le dimanche, alors que c'était dans un des tweets d'ailleurs, les touristes qui sont en week-end à Paris, les achats qui n'y font pas à ce moment-là, ils les feront ailleurs le reste du temps. Et puis troisième chose,
pour habiter, il faut habiter à Paris, c'est ce que vous nous dites.
Et puis troisième chose,
pour consommer le dimanche.
Et qui est chez moi un point d'exaspération récurrente concernant Madame Hidalgo, c'est sa capacité à ne pas comprendre que Paris n'est pas une bourgade isolée, mais que Paris, c'est dans une agglomération. Quand on parle du travail du dimanche, les mesures éventuelles de fermeture ou de restriction à l'ouverture des magasins qu'elle va prendre sur le territoire de Paris intramuros, concerne qui? Ça concerne des salariés qui très majoritairement sont logés en dehors des frontières. De la même manière que pour la bagnole, Anne Hidalgo prend des décisions dans son coin qui irradient et qui concernent l'ensemble de l'île de France.
Dans son coin, je rappelle qu'elle est quand même maire de la première ville de France et qu'elle est en situation de les prendre, ces décisions.
Mais de la commune, encore une fois, Marco, pas du Grand Paris. Elle refuse de voir que le sujet devrait être traité au niveau du Grand Paris si on parle de le traiter d'un point de vue régional.
Yvan Rioufol.
faire ses courses à Clichy.
Le dimanche à Clichy. Non, mais travailler ou ne pas travailler, Joseph. Travailler ou ne pas travailler.
Du point de vue littéraire,
Clichy, pas dimanche. Désolé, Yvan Rioufol, allez-y. Vous êtes passé devant Yvan Rioufol. C'est trop tard. Allez-y, Joseph.
Non, mais moi, je suis tout à fait de l'avis d'Anne Hidalgo. Je trouve ça. Je trouve que ces mesures sont des mesures, là, pour le coup, proprement démagogiques, qui ne servent à rien. Quand j'entends le fait de dire mais les touristes vont partir à Londres le dimanche. Vous êtes déjà allé à Londres le dimanche? Vous avez vu beaucoup de magasins ouverts? Ben, très franchement, je
oui, oui, compte. Oui, oui, bah, oui, je ne sais pas si c'est bien, mais si c'est factuellement
qu'à Paris. Je vous assure que vous ne devez pas y aller souvent parce qu'il y en a beaucoup moins qu'à Paris. Justement, l'Angleterre et le propre. Je suis désolé, le propre d'Angleterre, c'est que le dimanche, très souvent, les magasins sont fermés le dimanche.
On ne va peut-être pas dans le même quartier.
Non, mais Joseph, les petits commerces de Londres sont effectivement fermés. Il y a 20% des commerces parisiens qui ont une activité le dimanche. La seule chose, c'est que dans l'affaire qui nous concerne sur Paris et sur ces fameuses zones touristiques internationales, ça comprend en réalité 4 grands établissements, 3 rive droite, 1 rive gauche, qui font quand même 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, qui emploient 19 000 personnes et qui sont alimentés à hauteur de 1,5 milliard par les touristes étrangers. Ça, c'est très facile à savoir. C'est les cartes de crédit qui nous le disent.
Ah, là, c'est plus compliqué, Joseph, d'argumenter, non ?
Très franchement, c'est très simple, Marco. C'est votre choix. Si vous considérez que la société dont vous rêvez, Marco, s'organise autour de la carte de crédit, c'est possible.
Moi, j'organise des débats ici.
C'est là où je suis beaucoup plus traditionnaliste que vous.
Non, je mets juste l'huile sur le feu. Moi, mon boulot, c'est ça. Le reste, vous savez.
Justement, je considère que.
J'ai même pas d'avis sur la question.
C'est mon côté traditionnaliste.
De toute façon, Marco ne travaille plus à partir du jeudi soir.
C'est-à-dire que je considère que le dimanche.
La question, c'est l'ouverture de vendredi.
Le dimanche, c'est un jour de repos. Voilà.
Yvan Rioufol.
Ah, pour donner la parole. Vous êtes bien bon quand même, Marco.
Je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est Joseph qui l'a accaparé.
Je n'en ferai pas un plat. Mais le problème, c'est que je suis d'accord avec M. Scarron.
Moi, je vote. Ça, c'est un problème.
Je vote Hidalgo, bien sûr, parce que je trouve également que tous ces arguments. Oui, parce que elle, c'est tout à fait valorisant pour elle que de se confronter au gouvernement. Personne ne lui fera ce reproche-là. Donc même pour elle, ça va la valoriser.
Ça, c'est juste.
J'entends bien ces arguments de dire qu'elle veut défendre le petit commerce, et cela me touche. En même temps, je ne voulais pas qu'elle se crispe non plus et qu'elle devienne trop sectaire naturellement dans les accommodements qu'elle pourrait malgré tout faire. Mais ce que je lui reproche et ce que je n'entends pas chez elle, et ce que je défends moi quand je défends le dimanche, avec des exceptions naturellement, je ne suis pas idiot, je vois bien qu'il y a des touristes, etc., c'est que je voudrais qu'on comprenne que ce dimanche-là est un apport culturel, et que cet apport culturel est très important. C'est un apport culturel qui est né de notre tradition catholique, chrétienne, et quand je vois que même maintenant Noël commence à être effacé au profit des fêtes de fin d'année, quand je vois qu'une crèche est interdite au Conseil général de la Vendée, quand je vois que peut-être demain on interdira le gâteau des rois à l'Élysée, parce qu'il y a des relents de religiosité là-dedans.
Non, de laïcité, de laïcité.
Pourtant, il y a des rois majeurs.
Oui, mais il y a des relents de religiosité là-dedans. Et donc, je trouve cela idiot. Or, en fait, c'est également le point de départ de ce débat, est également celui-ci, c'est-à-dire de faire table rase de tout ce qui a pu nous constituer.
On peut écouter toutes ces raisons d'un dimanche.
Et donc, pour toutes ces raisons-là, je vote pour Hidalgo. Et puis ensuite, je trouve que cette surconsommation pourrait bien, une fois par semaine, nous permettre de penser à autre chose. Et donc. Voilà, je l'appuie.
Allez, c'est dit. À suivre, encore une démission dans l'entourage proche de François Hollande. On en débat dans un instant et on fait le point également sur les matchs de Ligue 1. 5 matchs ont débuté à 19h. Thibaut Geffrotin nous donne les scores, donc à 19h30 dans 3 minutes maintenant. Le foot, avant le match tout à l'heure, Lille-PSG, 5 matchs de Ligue 1 ont débuté à 19h. On fait le point sur les scores, Thibaut Geffrotin.
Après une demi-heure de jeu, Saint-Etienne mène à Montpellier le but de Florentin Pogba. Metz-Bordeaux 0-0. Guingamp mène face à Caen 2-1, des buts de Mandan, Giresse et Yaya pour le Stade Malherbe. Rennes mène 1-0 à Nice, le but de Paul-Georges Entep. Bastia et Vientan-Gaillard 0-0.
Vous revenez à la mi-temps, à tout à l'heure.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde à 19h31 sur RTL avec Joseph Massescaron, Philippe Baïk, Christian Menanto, Yvan Rioufol, on l'appelait le majordome ou le couteau suisse. C'est l'un des plus proches de François Hollande qui a démissionné aujourd'hui. Fawzi Lamdaoui était devenu son conseiller à l'égalité et à la diversité. Il a donc quitté l'Élysée aujourd'hui soupçonné d'abus de biens sociaux. Alors ses conseillers, ses proches, qui les uns après les autres sont obligés de partir, ça vous inspire quel commentaire sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ça commence à faire beaucoup, soupir voyageur, comme tout Twitter ou presque. Et Luc Dégrené, Fawzi Lamdaoui, Kader Arif, Jean-Pierre Jouyet, Thomas Thévenoud, Aquilino Morel, Jean-Marie Le Guen, Jérôme Cahuzac, ça ne tient même plus en un seul tweet. Bertrand demande à l'Elysée, au prochain, vous gagnez quelque chose ? Il y a une explication rationnelle. J'ai l'impression d'assister à un suicide politique organisé. Bravo, elle est belle, la République exemplaire, applaudit Bader. On avait mal entendu, c'est la République exemplaire, corrige Valéria. Alors parmi les restants, que ceux qui n'ont pas trempé dans des magouilles lèvent la main, ça ira plus vite, propose Prolman. Mais Xavier souligne qu'avec toutes ces démissions, au moins on sait que la justice n'est pas instrumentalisée par le pouvoir, c'est déjà ça. Je préfère ceux qui démissionnent à ceux qui cherchent à tout prix à sauver leur tête tout en se sachant coupable. Un coucou l'UMP, lance enfin Steph, qui se console comme il peut.
Joseph Massescaron, finalement, est-ce que c'est pas les vertus et les bienfaits de la transparence ? Il y a plus de gens qui se font prendre dans les filets, mais il n'y aurait pas eu cette volonté de transparence, il n'y aurait pas tous ces départs. La transparence voulue par François Hollande.
Oui, on peut voir ça de cette manière-là. Vous avez raison.
Il faut bien que je vous lance.
Vous avez raison. Vous avez raison. Encore une fois, vous n'êtes pas ni juge ni partie. Vous êtes arbitre. Voilà. Non, on peut voir aussi le fait que la justice fonctionne absolument librement. Moi, ce qui me frappe, c'est, vous savez, de même que à Koh-Lanta, l'épreuve fatale, c'est les poteaux. Pour le quinquennat de François Hollande, l'épreuve fatale, c'est les poteaux. Voilà, mais les potes. Parce que très franchement, quand on voit les potes autour de lui qui tombent les uns après les autres, c'est absolument terrible. Et je crois que il y a un parfum de chiraquisme là-dedans, parce que c'était très courant autour de Chirac, les personnes qui très souvent qui faillissaient, parce que c'est des combines minables pour la plupart, très franchement. Je veux dire, quand on voit le dossier de Lamdaoui, c'est tout à fait minable. De même d'ailleurs que la personne qu'il avait exploité, monsieur Mohamed Belaïd, puisque c'est de là dont parle l'affaire, c'est-à-dire ce chauffeur qui en fait n'était pas un chauffeur tout en étant un chauffeur, et comme par hasard
on va laisser faire la justice, hein. Voilà, si on va laisser aujourd'hui, oui. C'est parce que c'est justement pour laisser la justice travailler.
C'est pour laisser la justice travailler,
pour l'instant, il y a présomption d'innocence,
hein. On a suivi un tout petit peu le dossier, si vous voulez, à Marianne. On a publié quelques normes, on a publié quand même quelques preuves quelque chose assez lourdes. Et d'ailleurs, M. Lamdaoui est intervenu par divers réseaux pour faire pression pour que le papier le concernant ne paraisse pas. Donc, très franchement, autour de ça, bien sûr, il y a un problème qui est fondamental. Je veux dire, moi, je crois que c'est un problème, d'abord, d'absence de décision et aussi d'impréparation, puisque en fait on voit bien que l'entourage de François Hollande était surtout fait de briques et de brocs.
C'est votre avis, Marie-Fan ?
Moi, ça me suscite deux interrogations. D'abord, une interrogation sur le manque de vigilance de François Hollande, parce que ce n'est pas la première fois, ça a été rappelé, que son entourage est pris dans des affaires. Et j'observe que quand, en plus, on fait fonction de magistère moral, comme il est le représentant de cette gauche-là, il devrait faire attention aux gens qu'il nomme. Mais la deuxième interrogation qui me vient, c'est sur la qualité même, et qui est plus générale, c'est sur la qualité même du personnel politique aujourd'hui. Je crois qu'on touche au cœur de la crise de la politique, parce que cela n'attire plus naturellement les gens les plus valables, cela attire souvent les ambitieux, souvent ceux qui veulent profiter des facilités du pouvoir, souvent ceux qui veulent profiter des corruptions que permet le pouvoir.
Quand vous dites souvent, c'est pas ce dont on parle, mais la grande majorité, c'est pas ça.
Souvent ceux. Je suis en train de vous dire que la grande majorité, la majorité aujourd'hui du personnel politique est un personnel politique qui ne tient plus la route à côté de celui qu'on a.
Justement, vous êtes en train de dire ça, mais moi je suis en train de vous demander si c'est la réalité ou est-ce que c'est pas simplement ce dont on parle, parce que
ce que je suis en train de vous décrire. Oui, pour moi c'est la réalité. Et c'est une question à poser. Et en fait, et la troisième question serait de savoir si vraiment François Hollande a de la chance. Vous savez, Napoléon demandait avant de nommer ses généraux s'ils avaient de la chance. Là, visiblement, il n'en a pas.
Il n'a pas de chance. Oui. Il est assez malheureux dans ses choix. C'est vrai. On peut lui reconnaître au moins une chose. Il est fidèle en amitié. Tous ces gens-là ont cru en lui alors qu'il était à 2%, 3% dans les sondages et que tout le monde pensait que c'était un personnage secondaire de la vie politique. Ils étaient derrière lui, ils conduisaient les bagnoles, ils s'arrangeaient, ils faisaient tous les petits boulots nécessaires. Donc, le François Hollande les a récompensés. Mais moi, je crois surtout que ce sont des dommages collatéraux inéluctables. On est rentré dans une phase où la transparence va tous les jours être un tout petit peu plus aiguë, et que tous ces petits arrangements, il y en a quelques-uns qui sont, Joseph le disait, assez minables, mais il y en a aussi de plus grands, de nos élus, de la part de nos élus, tout ça va arriver, va émerger, va sortir au grand jour, Et moi, je
noterais juste... Vous ne pas des livres hein.
Oui, voilà. Bah, alors, il y en a un qui arrive. Monsieur Morel va sortir le sien.
Oui, ça va avec le profil de ces politiques-là.
Voilà, c'est ce que je dis. Il est malheureux dans ses choix.
Ils n'ont plus de morale, ils n'ont plus d'éthique.
Enfin, Morel n'était pas un proche-proche. Hein, c'est un... Bon, bref. Mais je crois que maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que nous, les électeurs, on va jouer le jeu de ce regain de transparence. C'est-à-dire que quand on saura que des gens ont fauté, est-ce qu'on va continuer à les élire et les réélire ?
Voilà. Est réélu,
mais comme un empereur.
Ça ne change peut-être pas grand-chose finalement à la perception que les électeurs.
C'est la grande question.
Oui, effectivement, mais ce qui me dérange un peu, c'est l'amalgame qu'on fait et la masse qu'on fait de la liste impressionnante qui était donnée tout à l'heure. Avec des histoires anciennes et plus récentes, avec des niveaux d'ampleur quand même très, très différentes dans les enjeux. Si on reprend la liste...
Ce qui les rejoint quand même, c'est qu'ils ont tous quitté leur poste quand même.
Oui, mais si on reprend, Marco, la liste de noms qui a été égrenée tout à l'heure, le seul auquel on reproche quelque chose, ou en tout cas qui est inquiété aujourd'hui pour des faits commis depuis son entrée en fonction dans le quinquennat actuel, c'est Kader Arif, pour le contrat avec le ministère de la Défense. Tous les autres, c'est des faits anciens, souvent, parfois même très anciens, et commis, s'ils l'ont été, encore une fois, nettement avant. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, le paradoxe, c'est comme dans les statistiques de la délinquance. Je veux dire, à un moment, les chiffres qu'on publie, c'est le nombre de procédures constatées. Donc, soit ça veut dire qu'il y a plus d'infractions, soit ça veut simplement dire que la police et la justice sont plus efficaces.
C'est l'effet de la transparence, quoi, c'est ça.
Et le troisième aspect, c'est sur ce que disait tout à l'heure Yvan, de la qualité du personnel politique. Je pense qu'un des vrais torts des politiques, c'est d'avoir été depuis 15 ans dans une ligne de plus grande pente de réduction, de diminution régulière de leur rémunération, du fait qu'aujourd'hui un ministre est rémunéré moins de 10 000 euros par mois, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que l'essentiel des Français, mais qui est beaucoup moins que... qui le place au niveau d'un cadre sup lambda, alors qu'il est ministre de la République.
Cela devrait...
Ça incite... parce qu'ils ne sont pas rémunérés au niveau des études qu'ils ont faites, des responsabilités qu'ils occupent, effectivement, du coup, on n'a pas forcément
c'est plus compliqué que ça. Nombre d'entre eux, les ministres sont là pour servir la République, ils ne sont pas là pour se servir. Or, maintenant, de plus en plus, mais on voit souvent maintenant des ministres qui sont là pour se servir.
Le problème,
Joseph Massescaron,
je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Le problème n'est pas un problème global au personnel politique. Non, le personnel politique n'est pas corrompu, c'est pas un problème de corruption, c'est un problème de complicité.
Ils indiquaient sur Internet la localisation de radars, on leur supprime leur permis, on en débat dans un instant.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde à 19h42 sur RTL avec Joseph Massescaron, Christian Ménanteau, Yvan Rioufol, Philippe Bailly. Une condamnation inédite, 15 membres d'un groupe Facebook qui indiquaient sur Internet la localisation de radars sur les routes de l'Aveyron se sont donc vus retirer leur permis pour un mois. Décision du tribunal correctionnel de Rodez. Que vous approuvez ou vous dénoncez sur les réseaux sociaux?
Énormément de réactions et une grande majorité d'internautes les défend. Est-ce bien légal de leur suspendre le permis puisque personne ne peut prouver qu'ils ont commis une infraction lors de la conduite d'un véhicule? S'étonne l'ours. C'est juste scandaleux. Où est-il inscrit que c'est interdit? C'est seulement une interprétation de la part du juge, s'écrit Daniel. C'est combien pour un appel de phare? Demande Vincent. C'est ridicule, les radios locales diffusent également les emplacements radars. Doivent-elles être condamnées? Demande Mika. La police elle-même signale l'emplacement des radars sur ses comptes Twitter officiels. Ils veulent garder l'exclu ou quoi? Se moque Robert. Chris, au contraire, trouve que c'est bien fait pour eux et pas assez cher payé. La sécurité routière est indispensable pour tous. Kat confirme pour finir. Tout à fait d'accord avec ce jugement et que cette vitesse égale danger pour les auteurs, on s'en fiche, mais aussi pour leurs victimes et ça, on ne s'en fiche pas.
Philippe Bailly, cette condamnation, elle vous inspire quel commentaire?
D'abord, il faut regarder l'intitulé lui-même, ce qui est soustraction à la constatation d'infraction, que je trouve très nébuleux. Et effectivement, en lisant tout à l'heure la nouvelle, je me posais la question qui a été mentionnée à l'instant de l'appel de phare, vieille tradition sur les routes de France. Est-ce que on est susceptible de se voir suspendre son permis pendant un mois quand on fait un appel de phare?
C'est autorisé. C'est tout simplement la cour de casse qui a tranché. L'appel de phare et c'est OK. ok, vous pouvez continuer d'en faire. Donc arrêtez de prendre des comptes Facebook, faites des appels de phare. La Cour de Cass est avec vous. Elle considère même que c'est de la solidarité. C'est
et
alors, le jugement.
Et en tout cas, pour prendre à l'autre extrémité, quand on voit les applis Coyote ou autres Waze, même gratuits, etc., qui viralisent de manière massive ces informations de radar mobile et autres, deux réflexions. Un, c'est qu'on a, ça donne un peu l'impression que, selon la fable de La Fontaine, selon qu'on est riche ou misérable, etc., les jugements de cour sont pas les mêmes. Et le deuxième aspect, c'est que le roi est un peu nu face aux géants du numérique, décidément. Waze, on peut pas attraper les éditeurs de l'appli Waze. Et donc, on se rabat sur les abonnés Facebook. Voilà, c'est un petit peu pas très efficace.
Ce qui est absolument fou dans cette affaire, c'est, ça a été signalé par un internaute, c'est que récemment, je regardais ce dossier, et puis la gendarmerie du Var, par exemple, met sur son compte officiel Facebook l'ensemble de ses procédures de contrôle. Elle dit, voilà, attention, on va mettre le radar ici, là, machin. Et je trouve que c'est à la fois intelligent et que c'est un vrai service public. C'est-à-dire, elle dit, dans toute cette portion, faites très attention si c'est une portion dangereuse. Or, le problème des radars en France, il y a un vrai problème de fond. Est-ce que c'est quelque chose qui est préventif et pédagogique, ou est-ce que c'est un outil punitif et une machine à sous? Vous savez qu'un bon radar, c'est quand même 20 millions d'euros de recettes par an. Il faut quand même le savoir. Juste un petit mot, notre confrère Autoplus avait fait la carte de France, donc elle a été publiée, ils n'ont pas été convoqués, et on voit qu'on met des radars rentables dans des endroits où il n'y a aucun danger. Donc c'est parfois, on se pose la question.
Oui, c'est scandaleux, Yvan Ruffol.
Je trouve ça scandaleux, en effet. Je ne comprends pas ce jugement. Je ne comprends pas non plus, d'ailleurs, l'articulé de ce jugement, parce que ils sont poursuivis, si j'ai bien compris, sur le thème, sur le fondement des détecteurs de radar, si j'ai bien, enfin c'est un peu cela.
Le
détecteur est interdit, mais personne n'a jamais.
Mais l'aide à la conduite ne l'est pas.
Personne n'a jamais interdit à des internautes de dire qu'il y a des radars quelque part. Donc ça me paraît infondé sur le plan juridique. Et puis en plus, je trouve ça effectivement très dangereux parce que cela oblige un contre-pouvoir à ne pas pouvoir. Ne plus pouvoir exercer ses droits. Et en fait, de contre-pouvoir, il y en a bien besoin, parce que vous l'avez dit, il y a souvent des radars qui sont utilisés comme étant des véritables vaches à lait, et il est bien normal qu'on puisse les éviter. Et en plus, je ne vois pas où est le danger à vouloir dire à des automobilistes de ralentir là où il y a des radars, puisque même les radars eux-mêmes, parfois, disent qu'ils sont là pour ralentir. Donc, je vois beaucoup de mauvaise foi dans de faux procès, c'est le cas de le dire, dans cette procédure qui a été intentée contre des internautes qui ont fait leur boulot, et j'espère qu'ils vont continuer.
Et vous, Joseph ?
Oui, ils vont continuer.
Ah, moi, je considère tout à fait que c'est une bonne chose. Je considère que c'est une bonne chose parce que j'étais un peu curieux, c'est-à-dire que je suis allé voir. J'ai tapé le mot radar pour la presse régionale, notamment Ouest-France et La Voix du Nord, et j'ai quand même été saisi du nombre d'exactions qui étaient commises et du jeu qu'il y a aujourd'hui, du jeu de con, il faut bien le dire.
À détruire les radars.
Soit à détruire les radars, à feinter les radars, soit à accélérer après avoir eu le radar, etc. Mais vous avez des pages et des articles, mais franchement, tapez, regardez juste La Voix du Nord et Ouest-France et vous serez saisis. Donc, et je pense que l'ensemble de la presse régionale est exactement sur un ton. Donc oui, aujourd'hui en France, il y a un jeu, parce qu'en France on se croit malin et plus malin que les autres, il y a un jeu qui consiste à détourner évidemment cette législation, qui est une législation essentielle, parce qu'autant alors à ce moment-là, autant enlever les radars. Mais je le rappelle, en France on meurt. Le seul abus qu'il y a, c'est le nombre des morts qu'il y a sous la route.
Allez, à suivre, la PlayStation à 20 ans. On en dit un mot dans un instant. Et on fera un point sur les 5 rencontres de Ligue 1 qui ont démarré à 19h. On est à la mi-temps. Le foot, c'est la mi-temps. 5 matchs donc de Ligue 1 ont débuté à 19h. On en est où à la mi-temps, Thibaut Geffrotin?
Saint-Etienne mène 2-0 à Montpellier grâce à Pogba et Baïs. Metz-Bordeaux 0-0. Guingamp mène face à Caen 2-1. Des buts de Mandane, Gires pour Guingamp et Yaya pour le Stade Malherbe. Rennes mène 1-0 à Nice, un but de Ntep. Et Bastia mène 1-0 face à Evian. Tonon Gaillard, un but d'Abdallah contre son camp.
Et votre multiplex est à 20h avec Christian Olivier et Pascal Pro pour Lille-PSG.
RTL Soir. On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde ce soir avec Philippe Bailly, avec Joseph Massescaron, avec Yvan Ruffol et avec Christian Menanteau. La première PlayStation à 20 ans. Aujourd'hui, on en est à la PlayStation 4 et ça a changé la vie de bien des familles. En bien ou en mal, Joseph Massescaron?
En bien ou en mal, évidemment, moi je considère, je ne suis pas très PlayStation. Mes enfants d'ailleurs ne sont pas, n'ont pas été, maintenant ils sont grands.
Ils jouent à la PlayStation jusqu'à très longtemps. Hein.
Ah, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, la moyenne d'âge est 35 ans. La moyenne d'âge est de 35 ans. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que pourquoi ? Parce que d'abord il faut être adulte pour se payer un jeu. Je crois que c'est en moyenne 70 €. Donc excusez du peu. Et il faut avoir aussi, il faut avoir tout simplement les moyens. Donc c'est pour ça que les PlayStation s'adressent d'abord à des personnes en effet plus âgées et qui sont d'un milieu social plutôt aisé. Moi j'essaie de m'accrocher, de voir. Bien sûr il y a une créativité. Alors si on pas simplement de PlayStation, il y a une créativité graphique qui est réelle et aussi qui relève de l'histoire. Maintenant, je vais passer la parole à mes petits camarades parce que le temps presse.
Philippe Bailly, on entendait ce matin sur RTL un père de famille raconter comment ça avait complètement bouleversé la vie familiale et que d'ailleurs aujourd'hui on ne privait plus de télé, on privait de PlayStation parce que les enfants n'ont rien à faire d'être privés de télé, ils ne savent même plus ce que c'est.
Oui, en tout cas, garder le contrôle du temps passé par les enfants devant l'écran, quel qu'il soit, que ce soit l'écran de télé ou l'écran de PlayStation, c'est bien pour lui préserver un peu de capacité à prendre de l'air frais et puis un peu d'ouverture à autre chose. Encore une fois que les écrans, au moins, on a dépassé le stade où on soupçonnait les consoles de tous les maux, de rendre épileptiques, etc. Aujourd'hui,
on attendait le prochain fait divers et ça reviendra.
Il y a toujours des avertissements au début des jeux, mais quand même globalement maintenant ça s'est intégré quand même au paysage audiovisuel, à notre équipement audiovisuel au domicile, et ça fait beaucoup plus que d'ailleurs maintenant simplement du jeu. Ça devient même une sorte de décodeur ou de porte-avions pour d'autres services audiovisuels. Et Sony demain sera avec Microsoft, avec
et vous Google. Vous en félicitez?
Non, je le crains. C'est-à-dire parce que ça me ramène au point précédent sur autant d'acteurs qui ne se plient pas et qu'on a aux règles habituelles de l'exception culturelle et qu'on n'a aucun moyen de contrôler.
Je suis sûr, Yvan Rieufol, que vous jouez toute la journée à la PlayStation.
Je crois, jamais joué de ma vie à la PlayStation et je pense que mes enfants, pour le peu que je m'en souvienne, je crois que mes enfants non plus n'ont pas eu de PlayStation. Quand j'observe en revanche des enfants ou des adolescents en jouer, je suis un peu effaré par cette fascination que l'objet exerce et par cette sorte d'addiction qu'ils ont déjà sur cet objet-là. Et ce que je remarque, moi, qui me tient très à cœur, c'est que c'est un obstacle supplémentaire à aller vers les livres. Et je trouve qu'on a maintenant beaucoup de mal à faire lire les enfants, les adolescents, et avec la PlayStation en plus, ça rajoute une porte à ouvrir, ou à enfoncer.
Oui, on peut comprendre les craintes d'Yvan, mais je crois, enfin en tout cas à la maison, ça n'a jamais détourné mes garçons de la lecture. Simplement, je crois qu'ils ont eu une sensibilité graphique, une sensibilité à certaines animations qui étaient, pour ma génération en tout cas, totalement inimaginables, et qu'ils ont découvert à travers ces jeux, celui-là et d'autres, et qui aujourd'hui probablement leur sert dans leur boulot et dans leur finalisation d'études.
Ça va étonner Joseph, ça.
Oui, moi j'ai des ingénieurs à la maison,
non, parce que les scénarios, ils y ont trouvé des choses. Parce que les scénarios sont quand même d'une pauvreté...
Pas tous. Alors Joseph, peut-être que les trucs de guerre t'ont effrayé, mais il n'y a pas que ça.
Je ne pense pas qu'au dernier Assassin's Creed, par exemple, qui a fait une polémique entre Jean-Luc Mélenchon et les auteurs. Mais en tout cas, il y a longtemps qu'il a quitté le PS.
Je parle du PS4, le renouveau.
Nous n'en sommes pas encore là. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut dire, par exemple, on peut plaider en disant que maintenant, il y a deux choses, c'est qu'avec PS4, vous pouvez être mis en réseau. Si vous avez une oreillette Bluetooth, par exemple, vous pouvez être avec une autre personne quelque part dans le monde qui vous dit attention, tu as un ennemi derrière toi.
Mais c'est génial. Hein.
Oui, c'est génial. Mais d'un autre côté. C'est le problème principal. Le problème principal, c'est pas que ça abrutit. Alors encore, bien sûr que ça abrutit. Non, ça peut abrutir. Là, le problème, c'est que ça déconnecte du principe de réalité et qu'aujourd'hui, quand même, je pense que on sera d'accord avec Kim Von Youfon. Le problème principal, c'est qu'on est déconnecté de la réalité.
On va voir justement ce que disent les connectés, les réseaux sociaux, Benoît.
Ah bah, ils hallucinent. 20 ans, beaucoup reconnaissent déjà que ça leur file un sacré coup de vieux. Hein. Bon, en vrai, en France, la PlayStation, on y a joué il y a 19 ans. On n'est pas tous japonais, précise Gaëtan. Happy birthday, ma vieille. Et elle marche toujours, lance Nicolas. Photo à l'appui, c'était peut-être pas encore l'obsolescence programmée. La meilleure des consoles, salut beaucoup. Un coup de poker réussi, salut Pixel. Une manette iconique, des avancées majeures dans le graphisme et des pubs décalées. Voilà la recette du succès selon Le Point.
Si, il y a un problème, il y a un problème d'obsolescence. C'est ce qu'ils sont en train d'inventer, ce qu'on appelle le re-gaming. C'est parce que tout simplement, avec la PlayStation 4, vous pouvez pas jouer avec les jeux de la PlayStation 3 ou PlayStation 2, alors que vous pouviez avant. Donc, résultat, vous êtes obligé de revenir.
Il y a un problème de compatibilité.
Mais non, mais il y a un problème de marchandage. Vous qui dénonciez le marchandage et le fric pour les radars, vous ne le faites pas pour PS4. C'est curieux quand même.
Allez, on s'arrête là. On s'arrête là.
On était dans le. Bon, enfin bon.
Merci Christian Menanto, merci Joseph Massescaron, Yvan Rioufol et Philippe Bailly. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité avec Julien Cellier. Avant le multiplex RTL, Christian Olivier donc, et Pascal Praud pour le match, notamment Lille-PSG, à suivre donc en intégralité dans un instant.